8h sur France Culture. Bienvenue si vous nous rejoignez, le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous toussez, c'est normal. La France traverse l'un des pires épisodes de pollution de ces dernières décennies. Des particules fines, responsables de pathologies graves pour les enfants notamment.
3 ans de prison ferme prononcée contre Jérôme Cahuzac pour fraude fiscale. Une peine pas si sévère selon la sociologue Monique Pinson-Charlot. Elle a suivi tout le procès.
Le Parti Socialiste à l'heure de la primaire où l'on évince les plus petits candidats. Alors aussi des investitures pour les législatives où la ministre du Travail, Myriam El Khomri, obtient l'investiture de justesse à Paris.
Et puis nous irons à Alep. Dans ce journal, la Russie a surpris tout le monde hier soir en annonçant un arrêt des raids aériens. Accalmie confirmée par notre envoyé spécial sur place.
Et une légende de la conquête spatiale s'en est allée cette nuit. John Glenn, premier américain en orbite en 62, est mort cette nuit à l'âge de 95 ans. Hommage d'un pays à un héros comme il les aime. Grand soleil, crépuscule jaune, rose, orangé, les ciels sont magnifiques cette semaine au-dessus de Paris. Mais grâce, c'est tout le paradoxe, à la pollution qui stagne au-dessus de la capitale. 4e jour consécutif de circulation alternée pour tenter de réduire les émissions de particules fines. Et le problème dépasse largement Paris. Lyon, c'est une première, adopte également aujourd'hui la restriction de circulation aux seules plaques impaires. On tousse aussi à Rouen, dans les zones urbaines de Savoie ou encore dans l'Aube. Officiellement, la pollution provoque chaque année 48 000 décès prématurés en France. Un groupe de pneumologues franciliens tire la sonnette d'alarme depuis des années, en particulier pour les enfants, Jérôme Jadot.
Quand l'atmosphère se charge en particules, les enfants sont parmi les premiers à manquer d'air. C'est ce que montre une étude de l'assistance publique hôpitaux de Paris, publiée hier. Elle se penche sur la fréquentation des urgences pédiatriques au regard des niveaux de pollution. Hélène Chapuis est pédiatre à l'hôpital Trousseau.
On a pu montrer qu'un des 4 polluants qui étaient mesurés augmentait de manière très nette, de plus de 50%, les consultations aux urgences pour crise d'asthme de l'enfant. C'est les microparticules fines à 2,5 microns. Pour Paris, c'est effectivement le trafic automobile qui est une des principales sources de ces microparticules.
Des polluants qui vont jusqu'à toucher les fœtus, ajoute Bruno Housset, chef du service pneumologie au CHI de Créteil. C'est là ce que prouve une analyse récente d'un épisode ancien.
À Londres, entre le 5 et le 9 décembre 1952, il y a eu un pic de pollution extrêmement marqué. Et donc ils ont regardé ce qu'étaient devenus les enfants des femmes enceintes à cette époque-là. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait une augmentation de 8% des enfants asthmatiques avant l'âge de 15 ans. Donc ça a des effets sur le long terme.
Le conseil de ces médecins pour les enfants et les femmes enceintes, c'est à court terme d'éviter toute activité physique extérieure. À long terme, de tout faire pour réduire la pollution de l'air.
Le trafic routier pointé du doigt aujourd'hui, mais pas seulement. Ce pic de pollution hivernale trouve également son origine dans les feux de cheminée. Le chauffage au bois s'avère émettre beaucoup de particules fines, comme nous l'explique Yann Gallic.
Très réglementé en Île-de-France, le chauffage au bois reste marginal. Il ne représente que 5% de la consommation énergétique des franciliens. Mais c'est l'un des modes de chauffage les plus polluants. Charlotte Songeur est ingénieure à Air Paris, l'organisme qui surveille la qualité de l'air en région parisienne.
C'est les foyers ouverts qui sont les plus polluants, les cheminées, les brûlages dans le jardin qui vont émettre le plus de pollution. À titre d'exemple, une journée de feu de bois dans une cheminée, ça va correspondre à 3500 km d'une voiture diesel. Et ça peut correspondre aussi à 2 semaines de chauffage avec une chaudière haute performance.
Pour limiter cette pollution, explique Charlotte Songeur, il faut s'équiper d'un insert ou d'un poêle avec le label Flamme Verte, un label qui garantit la qualité environnementale des appareils de chauffage au bois.
Il faut vraiment utiliser des matériels adaptés et les dernières cheminées Flamme Verte pour pouvoir mieux brûler son bois et continuer à travailler sur les nouvelles technologies pour vraiment limiter cette pollution atmosphérique liée au chauffage au bois pour qu'on arrive justement à un équilibre entre réchauffement climatique et qualité de l'air.
En Île-de-France, le chauffage au bois représente aujourd'hui près de 20% des émissions de particules fines, soit autant que le trafic routier.
Quant à la réponse des politiques à ce pic de pollution, mis à part celle de la maire de Paris, Anne Hidalgo, elle est quasi inexistante chez les candidats à la primaire de gauche, celui investi à droite. Au gouvernement, la ministre Ségolène Royal, très discrète jusqu'à présent, a fini par annoncer hier des mesures en faveur des transports propres sous la forme d'une vignette. Elle détaillera demain en Conseil des ministres. La réponse politique, c'est aussi le thème des matins avec vos invités, Guillaume Erner. Ce sont ce matin Chantal Jouanneau et Corinne Lepage. La politique côté justice cette fois avec cette condamnation sans précédent. Jérôme Cahuzac a été reconnu coupable de fraude fiscale hier par le tribunal correctionnel de Paris. L'ancien ministre du budget qui avait caché des comptes à l'étranger écope de 5 ans d'inéligibilité et de 3 ans de prison ferme. Il a fait appel suspensif qui lui évite de dormir en détention pour l'instant. La sociologue Monique Pinson-Charlot, qui a écrit sur l'affaire avec son époux et qui a suivi tout le procès, trouve pour sa part que les juges ont été relativement cléments avec ces 3 ans fermes.
D'un côté, ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, si on connaît bien la loi, c'est très peu. Pour ce qui concerne le blanchiment de la fraude fiscale, c'était 5 ans d'emprisonnement avant décembre 2013. Et puis, après l'affaire Cahuzac, il y a eu toute cette mobilisation du pays, cet écœurement du peuple français. Et là, la loi a voulu inscrire dans le droit français une aggravation de la peine pour ce type de délinquance en col blanc, en portant la peine d'emprisonnement ferme à 7 ans. Et si vous voulez 3 ans, c'est en dessous de la loi avant l'affaire Cahuzac. Lui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce que une relative mansuétude de ce jugement donne à voir, c'est que la corruption est une corruption de classe et que ça, on n'y touche pas. Donc on ne touche pas au verrou de Bercy, on ne touche pas aux choses essentielles qui permettraient de mettre fin une fois pour toutes en appliquant la loi que les députés ont débattu pendant des mois, cette loi sur la délinquance financière. On voit bien que c'est pas un arbre Jérôme Cahuzac, que c'est une forêt et que la fraude fiscale, le blanchiment de la fraude fiscale est beaucoup trop partagé, beaucoup trop systématique au sein d'une oligarchie française, européenne et mondiale.
La sociologue Monique Pinson-Charlot, co-auteur avec Michel Pinson de Tentative d'évasion fiscale inspirée de l'affaire Cahuzac, elle était au micro de Violette Voldoire. La politique à gauche, c'est la primaire organisée par le PS et trop de candidatures selon le parti. Conséquence, le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis a rejeté hier 3 prétendants de mouvements alliés, Pierre Larouturou, Sébastien Nadeau et le chevènementiste Bastien Faudeau. Tout le monde veut en être, mais ce n'est pas open bar, a déclaré le patron du PS qui souhaite faire un peu de place pour accueillir Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui décline toujours, une nouvelle fois encore hier soir. L'ancien locataire de Bercy précise « Quand ça n'arrangeait pas Jean-Christophe Cambadélis, j'étais un ministre d'ouverture. Maintenant que ce rassemblement de progressistes que nous avons construit commence à leur faire peur, il faudrait qu'on aille se perdre dans les chicayas de la primaire. » Fin de citation. Le Parti Socialiste également en pleine préparation des élections législatives. Elles suivront la présidentielle l'an prochain. Ce sont les militants qui décident en ce moment du nom des candidats à la députation. Non sans débat houleux, parfois comme dans le 18e arrondissement de Paris. Hier soir, la ministre du Travail, Myriam El Khomri, a obtenu l'investiture de justesse. Elle affrontait une proche d'Anne Hidalgo. Ilan Malka s'est rendu dans ce bureau de votre reportage.
C'est déjà une circonscription importante parce que très socialiste. Christophe Caresche, député actuel, l'a emporté en 2012 à 69%. Hier soir, le nombre de militants venus voter a tourné autour de 200, selon les organisateurs satisfaits. Yassir est l'un de ces militants.
C'est un vote auquel je participe à chaque fois. C'est très important parce qu'on a rarement dans la vie du parti la possibilité de désigner nos candidats. Et donc c'est un pouvoir énorme donné aux militants d'avoir la main sur nos représentants aux élections.
Cette 18e circonscription est importante aussi pour la candidature d'une personne sous le feu des projecteurs, la ministre du Travail Myriam El Khomri. Nationalement, elle a été très attaquée. Que pensent d'elle les militants locaux qui la connaissent bien, notamment comme députée suppléante? Yolande est au PS depuis un certain moment.
Depuis 80.
Et elle ne fait pas partie de ceux qui pense que Myriam El Khomri a trahi la gauche.
C'est une fille extrêmement courageuse, très travailleuse et très proche des gens et sociale. Mais comme elle est toujours un peu dans la réserve, qu'elle ne se la ramène pas trop, moi je l'aime beaucoup. Ça ferait une très très bonne députée.
Alors tout le monde ne partage pas cet avis. Danielle, elle, milite depuis 2002. Elle n'a pas aimé la loi travail, mais elle garde de l'affection pour la personne.
Elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. C'est une jeune ministre. Donc il y a peut-être des maladresses qui s'expliquent. Je ne pense pas que ce soit de sa faute. Jamais je mettrai la faute sur elle, mais oui, c'était profondément décevant.
Que ce soit à l'aile gauche ou à l'aile droite du PS, les militants s'accordent en majorité à reconnaître à Myriam El Khomri une implication et une présence active dans la circonscription. Un point d'accord qui ne fait pas de mal entre deux gauches décrites parfois comme irréconciliables.
Ilan Malka dans le 18e arrondissement de Paris. Et si la gauche craint la multiplication des candidatures, à droite aussi il y a du monde. Michèle Alliot-Marty a annoncé hier qu'elle se lançait dans la course à la présidentielle, avec déjà la moitié des promesses de parrainage requis. Gaulliste revendiquée, ancienne présidente du RPR, elle n'a pas voulu participer à la primaire de la droite et de juger le programme du candidat investi François Fillon trop libéral ou l'État est trop marginalisé.
Le journal de France Culture d'Amélie Perrier, il est 8h10. La suite de ce journal en Syrie où Moscou annonce une accalmie à Alep.
Et contre toute attente, la Russie affirme que l'armée syrienne cesse les bombardements aériens et les tirs d'artillerie pour laisser aux civils la possibilité de quitter les quartiers est de la ville. Des quartiers repris quasiment entièrement par les forces de Bachar al-Assad. Effectivement, notre envoyée spéciale sur place, Valérie Crova, a pu constater une baisse réelle de l'intensité des combats.
Des tirs d'artillerie résonnaient hier soir à intervalles réguliers dans le ciel alépin, mais rien à voir avec le déluge de bombes qui s'est abattu continuellement depuis le début de la semaine sur les derniers bastions rebelles. La suspension des opérations de combat de l'armée syrienne, annoncée par Moscou, doit permettre l'évacuation des civils pris au piège, alors que les forces pro-gouvernementales contrôlent désormais plus de 85% de la partie orientale d'Alep. Face à l'avancée massive des troupes du régime, les combattants anti-Bachar se sont retranchés dans quelques quartiers soumis à d'incessants pilonnages et raids aériens de l'aviation syrienne. L'intensité des combats a accéléré la fuite de la population désemparée. 80 000 personnes ont quitté Alep Est depuis le déclenchement de l'offensive le 15 novembre dernier. Hier encore, ils étaient plusieurs centaines à trouver refuge côté gouvernemental dans ce qu'il est convenu d'appeler un exode forcé.
Le récit de Valérie Crova, envoyée spéciale de France Culture à Alep Ouest en Syrie. Quant à la diplomatie toujours moins crédible dans le drame syrien, l'Assemblée générale de l'ONU doit voter aujourd'hui une résolution pour un cessez-le-feu immédiat et un accès pour les convois humanitaires. Texte rédigé par le Canada, voté par les 193 pays membres, mais sans aucune valeur contraignante. La Corée du Sud est-elle sur le point de destituer sa présidente? Le Parlement à Séoul se prononce ce matin sur le sort de Park Geun-hye. Au cœur d'un scandale de corruption, l'une de ses amies proches, baptisée la Rasputine sud-coréenne, est accusée d'avoir profité de ses liens avec la chef de l'État pour s'enrichir. Les députés de l'opposition ont menacé de démissionner en cas de rejet du projet de destitution. 10 jours pour signer. Amnesty International lance sa campagne annuelle de défense des droits humains. L'organisation met en lumière 10 cas emblématiques de violation des libertés fondamentales. Et France Culture, en partenariat avec Amnesty et Courrier International, consacre cet après-midi son magazine de la rédaction à certains de ces cas emblématiques. Bonjour Nabil Hamel.
Bonjour.
Plusieurs reportages donc dans le magazine cette semaine, en Turquie, en Égypte, où Amnesty ne cesse d'alerter sur les atteintes à la liberté d'expression et d'opinion, Nabila.
Oui, d'abord avec un reportage en Turquie, où depuis le coup d'État manqué du 15 juillet, l'état d'urgence est devenu l'outil d'une répression à grande échelle. Militaires, gulenistes ou personnes soupçonnées de l'être, kurdes, journalistes, avocats, enseignants, la machine à emprisonner, à harceler, à museler, marche à plein régime. Notre correspondante à Istanbul, Anne Lauer, nous fera entendre des voix qui osent encore se faire entendre. C'est le cas de l'avocate turque Eren Keskin, victime d'un harcèlement judiciaire pour son combat en faveur de la liberté d'expression et d'opinion.
Une liberté d'expression qui n'est plus d'actualité en Égypte non plus, Nabila, malgré ce qu'en disent les responsables du pays.
Oui, et là, il y aura le reportage de François Ferkataji au Caire, qui s'attardera sur le cas de Shaukan. C'est un journaliste photographe emprisonné depuis plus de 3 ans et privé de soins alors qu'il souffre d'une hépatite C. Il fait partie des 10 cas pour lesquels Amnesty appelle à signer.
Edward Snowden, à l'origine du scandale des écoutes de la NSA, fait partie également des personnalités défendues par Amnesty.
Oui, car l'ancien consultant de la NSA reste accusé d'espionnage, de vol de secrets d'État et risque gros aux États-Unis. Le lanceur d'alerte vit depuis 2013 en Russie, où il a un droit d'asile temporaire, mais pas un statut de réfugié. Un paradoxe que révèle d'ailleurs Jean Didier Revoyne à Moscou. Et puis, Amélie, Éric Bégala a rencontré des hommes enfin libres grâce à la pression internationale, comme Albert Woodfox, ancien membre des Black Panthers, libéré en février dernier alors qu'il avait passé 43 ans à l'isolement dans une prison américaine.
Des signatures qui sauvent des vies, ce sera le magazine de la rédaction coordonnée par vous, Nabil Hamel. Merci beaucoup. C'est réalisé par Annie Brault et ce sera présenté de 17h à 18h par Anne Fauquemberg. Un héros comme les États-Unis les aiment, l'astronaute John Glenn a rejoint les étoiles cette nuit. Il est mort à l'âge de 95 ans. John Glenn, c'est le premier Américain à effectuer un vol en orbite autour de la Terre en pleine guerre froide en 1962, un an après le soviétique Gagarine. Le récit de notre correspondant Frédéric Carbone.
Ce 20 février 1962, John Glenn est installé dans sa capsule pour rendre à l'Amérique sa fierté. L'Union soviétique a gagné la course de vitesse en envoyant Yuri Gagarin dans l'espace. Lui doit être le premier Américain à tourner en orbite autour de la Terre. Lancement réussi et au bout de quelques minutes, voici une voix qui vient de l'espace. Il y a zéro gravité, je me sens bien, c'est extraordinaire. John Glenn fait même mieux que Gagarin. 5 heures de mission, 3 tours en orbite et de retour sur Terre, une parade en son honneur à New York et un discours devant les élus au Congrès. John Kennedy parle de l'astronaute comme de ce que l'Amérique peut avoir de meilleur. La légende de John Glenn est née. Les gens ont besoin de héros, disait l'astronaute 50 ans après son vol historique. Mais moi, je ne me regarde pas dans la glace tous les matins en me disant que j'en suis un. À 77 ans, John Glenn retournait dans l'espace à bord de la navette Columbia. À 90 ans, il continuait de transmettre son expérience à des étudiants chez lui dans l'Ohio. Et pour l'éternité, il a sa place dans le panthéon des Américains.
La correspondance américaine de Frédéric Carbone. Et je vous parlais à l'instant de cette procédure de destitution en Corée du Sud. Eh bien, on apprend à l'instant que le Parlement vient de voter cette destitution pour la présidente sud-coréenne au cœur d'un scandale de corruption. Le temps de ce vendredi, le beau temps persiste, pas forcément une bonne nouvelle, donc pour chasser la pollution. Attention, brouillard givrant ce matin. Cet après-midi, il fera 0 degré en Val-de-Saône, 8 à Lyon, 11 à Paris et Arras, 12 degrés à Clermont-Ferrand, 15 à Nîmes, 17 à Bastia, 18 degrés à Hendaye. Édition préparée avec Brice Garcia. C'est à vous, Guillaume Erner.